VOA Afrique. Le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir à tous, c'est Kiabadou en votre compagnie. Il est 19h30 en temps universel, la même heure à Conakry et Abidjan. Bienvenue dans cette édition du mercredi 3 octobre 2018. Voici les titres. Dernière ligne droite au Cameroun avant l'élection présidentielle de dimanche. Le président Delakam affirme que tout est prêt.
Il y a une sécurisation de toutes les zones où les bureaux de vote. Il y aura élection dans les régions du nord-ouest et du sud.
Le Niger somme une représentante de MSF de quitter le territoire. Mélanie Trump poursuit sa tournée en Afrique. Elle a visité un ancien fort esclavagiste au Ghana. La Cour de justice internationale de La Haye se prononce contre les sanctions américaines sur l'Iran. Ne manquez pas les informations sur l'actualité économique et les sports. Mais tout d'abord, le journal. Au Cameroun, c'est la dernière ligne droite pour la présidentielle de dimanche. Les deux semaines de campagne s'achèvent samedi. Aujourd'hui à Yaoundé, le président Delakam, la structure chargée de l'organisation des élections, a assuré que tout était fin prêt pour le scrutin de dimanche. De Yaoundé, notre envoyé spécial, Bagassi Koura.
Le président d'Elections Cameroun, Eno Abrams Egbe, s'adressait à la presse après une session de travail des membres de la commission électorale. Il a assuré que tout est fin prêt pour que les quelques 6,5 millions d'électeurs qui sont inscrits sur les listes puissent voter sans souci dimanche. Le président d'Elections Cameroun a notamment évoqué les mesures mises en place pour la sécurité du scrutin dans les deux zones anglophones en conflit dans le nord-ouest et le sud-ouest du pays.
Il y a une sécurisation de toutes les zones où les bureaux de vote. Il y aura élection dans les régions du nord-ouest et du sud-est.
Quand sera-t-il du vote des déplacés fuyant les zones en conflit? Le président d'Elections Cameroun ne donne pas de chiffres concernant leur nombre, mais souligne qu'ils sont nombreux et que la plupart ne pourront pas voter.
Les déplacés, mesures pratiques, nous avons conseillé pour respecter dans le cadre de la loi, il n'y aura pas de vote des déplacés. Nous avons demandé à ceux qui sont déplacés de faire des transferts. Il y a eu des transferts dans les différents lieux où ils sont.
Un récent rapport des Nations Unies parle de plus de 200 000 déplacés. Le président de la commission électorale souligne que des moyens seront mis en place pour ceux qui veulent retourner voter dans les zones en conflit.
Il est transporté par des voies traditionnelles, c'est-à-dire par voie de route pour les amener dans les différentes zones. Donc vous allez retrouver que beaucoup de déplacés sont en train de rentrer chez eux pour pouvoir s'engager au processus.
Le président Delakam rassure qu'un dispositif sécuritaire permettra dimanche la réussite du scrutin dans toutes les régions du pays. Il note que jusque-là, la campagne s'est déroulée sans aucun incident majeur. Bagassi Koura, Yaoundé, pour VOA Afrique.
Nous reviendrons sur les élections au Cameroun dans notre partie magazine juste après ce journal. Le gouvernement de Niamey a donné un ultimatum de 48 heures à un médecin travaillant pour Médecins sans frontières suisse pour quitter le Niger. Elle est accusée de diffuser de fausses informations. La Suissesse a publié une vidéo sur les décès massifs liés à la malnutrition, au paludisme à Magaria dans le centre-est du pays. Des précisions avec notre correspondant de VOA Afrique au Niger, Abdourazak Idrissa.
Docteur Anne Pité a déjà quitté Magaria ce mercredi matin pour Niamey, d'où elle s'envolera pour son pays avant vendredi, selon le ministre de la Santé publique, Docteur Idi Iliassou Menassara.
Elle a parlé à son nom, ça veut dire pas au nom de l'organisation. Si c'était au nom de l'organisation, on allait sanctionner cette organisation. Donc la sanction ne peut être qu'individuelle. Et je pense que ça va permettre aux autres de se ressaisir. C'est l'État à l'exclusivité des informations sanitaires.
Dans une vidéo de plaidoyer diffusée sur les réseaux sociaux, la pédiatre suisse travaillant pour MSF Suisse dans le centre de récupération nutritionnelle de Magaria au centre-est du pays a annoncé que son équipe comptabilisait une moyenne de 10 décès d'enfants par jour au cours du mois dernier du fait du paludisme et de la malnutrition. Information que le ministre est allé vite vérifier sur le terrain en compagnie des responsables de l'organisation non gouvernementale. Conclusion, il y a eu exagération dans les chiffres. Abdulrazak Idrissa, Niamey, VOA Afrique.
La Banque centrale du Libéria a assuré que des billets de dollars libériens imprimés à l'étranger pour un montant d'une centaine de millions de dollars américains ont bien été placés dans ses réserves, démontant ainsi, après 3 semaines de polémique, que des conteneurs de billets avaient disparu. Des informations dans la presse et sur les réseaux sociaux avaient fait état de la disparition pure et simple de conteneurs et de sacs de billets entre le port et l'aéroport et la Banque centrale. Le procès de Laurent Gbagbo devant la Cour pénale internationale est reporté au 12 novembre après 2 jours et demi d'audience. Une pause annoncée ce mercredi suite à la demande des avocats de l'ancien président ivoirien qui souhaitent préparer leur réponse face à l'accusation sur son rôle central dans la planification des violences contre les partisans d'Alassane Ouattara pendant la crise post-électorale de 2010-2011. Au Togo, suite à la publication sur les réseaux sociaux d'une vidéo montrant une tentative de viol dans un hôtel à Lomé, les organisations de défense des droits de la femme viennent de lancer une campagne digitale contre les violences sexuelles dans le cadre des actions de prise de conscience et pour que la justice soit rendue aux victimes. Il sera organisé un rassemblement ce jeudi 4 octobre devant les locaux du ministère de la Promotion de la Femme. En Guinée, 6 mois après avoir mis fin à leur mouvement, les enseignants sont repartis en grève illimitée pour réclamer l'augmentation du salaire minimum dans le secteur public de l'éducation. En République démocratique du Congo, une nouvelle marche d'activistes pro-démocratie de lutte pour le changement dénonçant l'inertie des autorités face au massacre à répétition à Beni dans le Nord Kivu a été dispersée à coups de gaz lacrymogène à Kisangani dans le nord-est du pays. Toujours en République démocratique du Congo, le prix de la farine de froment a augmenté de 25% à Kinshasa après la fermeture fin août pour cause d'accident d'une minoterie. Des vendeuses de pain redoutent une augmentation du prix de cette denrée de base consommée par des millions d'habitants de la capitale. Le général Ferdinand Mbaou, 62 ans, farouche opposant du président congolais Denis Sassou Nguesso, dénonce le classement sans suite de la plainte qu'il avait déposée en 2015 après avoir été grièvement blessé dans une tentative d'assassinat, un dossier sur lequel nous reviendrons dans notre partie magazine. La première dame des États-Unis, Melania Trump, est en visite au Ghana. Elle s'est rendue à un ancien fort esclavagiste à 145 km d'Accra, au deuxième jour de sa tournée sur le continent. Le Point avec Yacouba Ouédraogo.
La visite du fort esclavagiste s'est faite en toute discrétion. La première dame s'est contentée de remercier ses hôtes pour leur accueil chaleureux, notamment ses deux accompagnantes, un ministre local et la reine Deya, originaire de la région de Cape Coast. Madame Trump a été reçue dans la salle Obama, nommée après la visite de l'ancien président Barack Obama en 2009. Hier, la première dame des États-Unis s'est rendue au service pédiatrique d'un hôpital d'Accra, où elle a distribué des ours en peluche aux enfants. Elle a aussi rencontré la première dame ghanéenne, Madame Rebecca Akufo-Addo. Il n'y a pas eu de déclaration publique, mais cette visite sur le continent africain est consacrée essentiellement aux enfants à travers sa campagne Be Best. Melania Trump se rendra ensuite au Malawi, au Kenya et en Égypte pour boucler sa tournée de 5 jours sur le continent.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
La Cour internationale de justice a ordonné aux États-Unis de mettre fin aux sanctions contre l'Iran visant des biens à des fins humanitaires, mais Washington avait déjà récusé la compétence de la Cour dans cette affaire. Abdourahmane Dia.
Les juges de la Cour internationale de justice basée à La Haye ont décidé à l'unanimité que les sanctions imposées et visant certains biens constituaient une violation d'un traité d'amitié conclu en 1955 entre l'Iran et les États-Unis et qui encourage les échanges commerciaux. La Cour indique que les États-Unis doivent supprimer toute entrave que les mesures annoncées le 8 mai 2018 mettent à la libre exportation vers l'Iran de médicaments et de matériel médical, de denrées alimentaires et de produits agricoles et de biens nécessaires à la sécurité de l'aviation civile, a déclaré le juge président Abdelwaki Ahmed Youssouf. Les mesures adoptées par les États-Unis risquent de nuire gravement à la santé et à la vie des personnes se trouvant sur le territoire iranien, a-t-il ajouté. Les décisions de la CIJ sont contraignantes et ne peuvent pas faire l'objet d'une procédure en appel, mais la Cour n'a aucun moyen de les faire appliquer. La Cour se prononçait ce mercredi donc sur la demande de Téhéran, introduite en juillet, de suspendre les sanctions américaines réimposées par Donald Trump après le retrait des États-Unis de l'accord sur le nucléaire iranien.
L'Iran a qualifié les États-Unis de régime hors la loi après que Washington ait annoncé mettre fin au traité d'amitié de 1955 entre les deux pays. Le chef de la diplomatie américaine Mike Pompeo a estimé qu'il s'agissait d'une défaite pour l'Iran, car il a assuré que les États-Unis prennent déjà des mesures pour que les biens humanitaires soient épargnés. L'Allemagne et les États-Unis partagent les mêmes objectifs au sujet de l'Iran, même s'ils divergent sur la méthode, a affirmé à Washington le ministre allemand des Affaires étrangères après une rencontre avec le chef de la diplomatie américaine. Même si nous avons des points de vue différents, nous voulons une coordination étroite, a-t-il assuré. La chancelière allemande Angela Merkel, accompagnée de plusieurs ministres, est arrivée mercredi soir en Israël pour une visite éclair de 24 heures. Elle rencontre demain des hommes d'affaires israéliens et allemands, ainsi que des étudiants de l'université de Haïfa, dans le nord d'Israël. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. L'actualité économique en Afrique, on en parle dans la Minute Éco qui vous est présentée ce soir par Nanit Talani.
Au Cameroun, la volaille a représenté 34% de la production totale de viande entre 2011 et 2016, selon le ministère de l'Élevage, des Pêches et des Industries Animales. Les projets et programmes initiés par le gouvernement pour promouvoir et stimuler les activités d'élevage dans le pays ont porté des fruits. Ils ont permis un accroissement du cheptel de bovins de 8% par an, une hausse de 14% des ovins et respectivement 4% et 4,7% d'augmentation des porcins et de la volaille. Le groupe hôtelier américain Hilton Holdings envisage de plus que doubler sa présence en Afrique d'ici 2013. Avec un investissement de 50 millions de dollars, Hilton devrait s'implanter au Rwanda et au Botswana où la demande se fait croissante. Il devrait aussi acquérir d'autres sociétés hôtelières dans des pays où il est déjà présent. Ainsi, il est prévu l'ouverture à Lagos, au Nigeria, du Legend Hotel Lagos Airport, devant permettre à la compagnie de lancer sa marque hôtelière dite Curio, la première du genre en Afrique. Alors que la Tunisie cherche à réduire son déficit budgétaire à 3,9% l'année prochaine contre 4,9% pour 2008, le pays vient d'annoncer une hausse du service de sa dette pour 2019. Sous assistance du Fonds monétaire international, la Tunisie a réalisé des progrès notables et perçu près de 1,5 milliard de dollars de l'institution de Bretton Woods sur un total de 2,9 milliards de dollars convenus.
C'est le moment de la page sportive qui nous est présentée ce soir par Nicolas Pineau. Bonsoir Nicolas.
Bonsoir Ekia, bonsoir à tous.
Les demi-finales de la Coupe CAF.
El Masri qui joue depuis quelques minutes contre l'AS Vita Club depuis 19h temps universel, 0-0 pour le moment. Et puis un peu plus tôt, le Raja Casablanca qui a battu Enimba 1-0 lors de ses demi-finales allées de la Coupe de la Confédération. C'est le Marocain Abdelila Hafid qui a trouvé le chemin défilé du club nigérian après l'entame de la seconde mi-temps.
Il y a de nouveaux matchs ce mercredi en Europe, en Ligue des Champions.
Et Neymar et ses coéquipiers parisiens qui ont offert un véritable récital au Parc des Princes face à l'Étoile Rouge de Belgrade. 6-1, un triplé de Neymar, un but de Cavani, Di Maria et Mbappé. Marine avait réduit le score pour les Serbes. Le Lokomotiv Moscou accroché à domicile 0-0 contre Schalke 04. Et depuis 19h temps universel, Tottenham face au FC Barcelone. Et ce sont les visiteurs qui mènent 2-0 sur des buts de Coutinho et Rakitic. On a également le match à Londres 0-0 entre Naples et Liverpool. Le PSV Eindhoven qui mène 1-0 devant l'Inter Milan. 0-0 entre Dortmund et Monaco, l'Atlético Madrid qui mène 1-0 contre le FC Bruges et 0-0 entre le FC Porto et Galatasaray.
Hier, le champion en titre a chuté.
Et oui, les Madrilènes qui ont perdu 1-0 contre le CSKA à Moscou avec de nombreux absents, notamment Sergio Ramos, le capitaine, ou encore Gareth Bale et Isco, les attaquants. A noter le succès 5-0 de l'AS Rome contre le club tchèque du Victoria de Plzeň. Le Bayern de Munich accroché un but partout face à l'Ajax d'Amsterdam. Et puis le Benfica Lisbonne qui a gagné 3-2 sur le terrain de l'AOK Athènes pour revenir dans la course à la qualification. Lyon accroché sur son terrain par le Shakhtar Donetsk, 2-2. En Allemagne, Manchester City qui s'impose 2-1 à Hoffenheim. Et puis l'autre Manchester United neutralisé par Valence, 0-0. Enfin, la belle performance de la Juventus Turin, facile vainqueur 3-0 des Young Boys de Berne avec un triplé de Paolo Dybala.
Et l'Europa League demain?
Oui, le favori de la compétition, les Blues de Chelsea qui accueillent le club hongrois du Vidéoton pour confirmer les bons débuts, tandis que le rival Arsenal se rend en Azerbaïdjan pour affronter le Karabakh. Le Milan AC de son côté accueille l'Olympiakos du Pirée, tandis que le FC Séville se rend en Russie à Krasnodar, et puis ce sera pas facile du côté de l'Olympique de Marseille, vice-champion d'Europe en titre. Un déplacement compliqué à Chypre sur la pelouse de Limassol.
Merci beaucoup Nicolas.
Merci.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Etia Badou, toujours en votre compagnie. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. À présent, les dossiers du jour. Les Camerounais se rendent aux urnes dimanche 7 octobre pour choisir leur président parmi 9 candidats, dont le président sortant Paul Biya. Après 36 ans de règne, le président sortant brigue un 7e mandat de 7 ans à la tête du Cameroun. Comment expliquer la longévité de Paul Biya au pouvoir? Nani Talani a joint Hilaire Kanga, porte-parole de la Société civile pour la démocratie.
Il n'a pas hérité d'une élection pour être au pouvoir, donc il a été installé par M. Aïdjo dans un contexte où le peuple camerounais attendait un changement après 25 ans de règne d'un dictateur connu qui était M. Aïdjo. C'était en 1982. Bénéficiant donc de cet élément de faveur à la réalité, il s'est installé, il a été doublé par les Camerounais et avec le coup d'État qui a suivi 2 ans après, il a pu se réapproprier le pouvoir et mettre en place des mécanismes de conservation qui s'appuyaient sur les structures que lui-même il a mises en place. Alors ça c'est le premier élément qui est lié aux éléments conjoncturels. Le deuxième élément conjoncturel est celui des années 90 où il réussit à négocier le tournant devant des libertés de l'Est en refusant la conférence nationale souveraine et en adoptant ce qu'il appelait la tripartite, lui permettant ainsi de neutraliser toutes les velléités contestataires et de mise en place d'une dynamique véritablement endogène de partage de pouvoir. Donc il a pu réussir à neutraliser l'effort de changement en 1990 et il a signé un système électoral qui, au travers de la fraude, un logiciel ou une mécanique de fraude bien huilée, lui permet donc de rester et de se reproduire régulièrement. Parce qu'il faut noter sur ce plan conjoncturel qu'à la réalité, il faut doubler le plan structurel, c'est-à-dire la mise en place d'une commission des organes de gestion des élections qui, après le ministère de la Transition territoriale, sont devenus le MINAT, l'ONEL et ensuite l'ELECAM, qui, en fait, sont des structures totalement aux ordres qui lui permettent ainsi de garantir des résultats électoraux en sa faveur. Il faut comprendre là qu'on n'a jamais eu plus de 7 millions d'électeurs au Cameroun, malgré un potentiel électoral de près de 16 millions. Voilà.
Mais vous savez que l'élection qui pointe à l'horizon est à un tour. Alors, d'après vous, quelles sont les chances de l'opposition de l'emporter?
Je vais malheureusement être péremptoire en affirmant que les raisons que j'ai mises sur la table pour retirer ma candidature au sein de la société civile, il y a 2 mois, sont valables aujourd'hui. Parce que à un tour, si l'opposition ou les forces en face de M. Biya n'ont pas pu coaliser pour impacter sur les inscriptions sur les listes électorales, alors le même fichier électoral qui a permis au RDPC d'avoir près de 80% aux élections 2013 va être reconduit pour cette élection. Et donc malgré l'euphorie qu'on peut avoir autour des candidats, ça ne peut pas impacter fondamentalement sur les résultats électoraux qui vont être proclamés parce que M. Biya-Paul s'est donné tout un environnement de garantie de sa proclamation comme président de la République, même si sur le plan populaire, il n'aura aucune légitimité.
Donc vous pensez que l'opposition va aux élections déjà battues d'avance?
Non, c'est clair qu'elle est battue, que les opposants sont déjà battus d'avance. Pas parce que M. Biya est populaire, parce que personne de sérieux au Cameroun ne peut voter M. Biya. Il est le plus impopulaire possible. Mais le système électoral avec les 6 millions d'électeurs annoncés par Élections Cameroun, c'est les 6 millions d'électeurs pour une bonne partie sous contrôle de M. Biya et qui n'ont rien à voir avec les foules qui sont derrière les candidats aujourd'hui. Donc il y a une possibilité et il sera déclaré vainqueur, même s'il va perdre dans les urnes au niveau numérique.
Hilaire Kanga, porte-parole de la Société civile pour la démocratie.
Vous écoutez VOA Afrique à Douala, au Cameroun, sur Radio Balafon, FM 90.2.
En Centrafrique, certains députés accusent Abdoukarim Mekoussoua, président de l'Assemblée nationale, de mauvaise gestion, détournement et opacité. Sur les réseaux, beaucoup font état d'une procédure de destitution qui serait engagée contre lui. Idriss Fall a joint Lidine Ganzou Koumagéré, chargée de la communication du président de l'Assemblée nationale à Bangui.
Oui, c'est une rumeur qui court depuis un bon nombre de temps. Hein. Elle s'intensifie un peu plus ces derniers jours. Mais il n'y a rien de concret, il n'y a rien d'officiel, il n'y a rien qui a été établi, il n'y a pas eu un acte déposé devant la conférence des présidents pour demander une quelconque destitution. Donc pour l'instant, c'est ce qu'on en pense, c'est ce qu'on peut lire, ça et là, mais il n'y a rien d'officiel.
Mais comme ce n'est pas la première fois quand même qu'on entend une telle rumeur, qui est-ce qui aurait intérêt?
C'est la question qu'on se pose, hein, qui est derrière cette volonté de destitution du cas, bon, nous sommes en politique, hein, donc tout est permis. Il y a des gens derrière, comme je dis, hein, ils sont là, ils se reconnaissent. On ne peut indexer personne, puisque ça n'a reste qu'une rumeur et rien de tout tel.
M. Mekassoua avait promis à certains députés des 4x4. Est-ce que ce serait la cause d'un certain mécontentement?
Non, je ne pense pas. Une promesse politique, même si pour l'heure elle n'est pas encore concrète, je ne pense pas que cela puisse être une raison, un argument pour voir la destitution d'un président de l'Assemblée nationale, la deuxième personnalité de la deuxième institution d'un pays. Nous sommes dans un pays qui est devenu.
Mais il n'y a pas de problème entre le président de l'Assemblée et l'actuel président Faustin Touadéra?
Concrètement, il n'y a pas de problème. Et quand on va lire ça et là, on va voir qu'il y a un problème. Le président de l'Assemblée nationale et le chef de l'État se rencontrent régulièrement. Donc chaque semaine, ils vont une rencontre, ils parlent des dossiers d'actualité, ils évoquent ce qu'il faille faire. Les relations parlent bon fixe. Maintenant, quand on peut lire un journal et voir un sympathisant de tel ou tel bord, on penserait que les deux hommes sont à tout étirer. Ils se regardent en chien de faïence. Mais tel n'est pas le cas réellement. Ils sont en contre-tête.
Est-ce que l'Assemblée joue son rôle de contrôle de l'exécutif?
L'Assemblée nationale joue pleinement son rôle de contrôle des actions du gouvernement. Régulièrement, quand il est nécessaire, nous avons des interpellations. Là, il y a eu la rentrée parlementaire depuis hier, donc les députés sont rentrés. Il y a la deuxième session ordinaire de l'année, la dernière. Les trois prochains mois, ils joueront tous leur rôle avec les interpellations sur des dossiers de s'il est nécessaire, il y aura une question au gouvernement où les députés pourront poser le gouvernement concernant leur prescription, les régions reculées, notamment le Cambrélan, ça sera toujours des questions de sécurité.
C'était donc Lydie Nganzou Koumaguéré, chargée de la communication du président de l'Assemblée nationale à Bangui.
Votre rendez-vous quotidien sur VOA Afrique à Bangui, c'est sur 101.7 FM en République centrafricaine.
Le général Ferdinand Bahou, 62 ans, farouche opposant du président congolais Denis Sassou Nguesso, dénonce le classement sans suite de la plainte qu'il avait déposée en 2015 après avoir été grièvement blessé dans une tentative d'assassinat. Pour une réaction, Nicolas Pinault a joint son avocat, maître Vincent Brengart.
C'est une décision vers laquelle on se dirigeait un peu compte tenu des difficultés que peuvent rencontrer les enquêteurs pour identifier l'auteur de cette tentative d'assassinat. Maintenant, ça ne veut absolument pas dire que la procédure est terminée puisque monsieur Mbaou a mandaté un collectif d'avocats dont je fais partie avec également mon confrère Henri Tulliez et mon confrère Norbert Tricot pour nous constituer partie civile devant une juridiction d'instruction de Pontoise, autrement dit pour demander la désignation d'un magistrat instructeur qui reprendra l'intégrité du dossier et fera d'autres actes d'enquête.
Est-ce qu'aujourd'hui, le général Mbaou craint encore pour sa vie?
Il craint encore pour sa vie puisque il y a maintenant quelques mois, une nouvelle tentative d'assassinat a été déjouée. Elle fait l'objet d'une information judiciaire qui a été ouverte auprès de la juridiction d'instruction de Lyon. Donc c'est un dossier pour lequel on attend des réponses. Il y a plusieurs personnes qui ont été mises en examen. Sur les informations dont on dispose pour l'instant, ce sont d'anciens membres des services de renseignement français, puisque ce sont d'anciens membres de la DGSE. C'est suffisamment sérieux. Si l'ouverture d'une information judiciaire, ça montre bien qu'il y avait une menace réelle et qui, malheureusement, est un peu en répétition par rapport à celle qu'il a déjà connue en novembre 2015. C'est pour ça que, d'une part, évidemment, il nous a mandaté pour qu'on prenne toutes les initiatives juridiques pour nous constituer dans ces dossiers, mais aussi pour qu'on alerte le ministère de l'Intérieur sur les risques qui pèsent aujourd'hui sur son intégrité physique.
Qui aurait intérêt à faire taire le général Mbaou et pourquoi?
Écoutez, je pense qu'il est encore tôt pour le dire parce que ce sont des informations judiciaires qui sont en cours. Il y aura des actes d'investigation, mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a un contexte politique qui apparaît un peu manifeste puisque M. Mbaou, c'est un opposant au régime de Monsieur Sassou Nguesso. C'est pas n'importe quel individu puisqu'il se trouve exilé en France et que, encore une fois, c'est la deuxième fois qu'il fait l'objet d'une tentative d'assassinat. Donc ça nous donne malheureusement lieu de craindre qu'il y ait en effet potentiellement une nature et un lien politique avec ce qui lui est arrivé.
Maître Vincent Brangart, avocat du général congolais Ferdinand Baou en exil en France.
Restez à l'écoute de VOA Afrique 24 heures sur 24 sur 104.3 FM à Brazzaville et 98.3 FM à Pointe-Noire.
Aux États-Unis, les électeurs américains se rendront aux urnes le 6 novembre pour renouveler les 435 sièges de la Chambre des représentants et le tiers des sièges du Sénat. Un vote dont l'issue aura un impact sur les deux prochaines années de la présidence de Donald Trump. Mais la bataille polarisante autour de Brett Kavanaugh, candidat à la Cour suprême, semble mobiliser les électeurs des deux partis politiques. Le point avec Arzuma Compaoré. Alors, nous allons avoir ce reportage dans quelques instants. Le temps pour moi de vous rappeler que vous pouvez aller sur notre site à tout moment pour être en connexion avec les informations. Notre site, c'est www.voafrique.com. On écoute tout de suite le sujet.
Au cœur de la fureur suscitée par la polémique autour de la confirmation du juge Kavanaugh à la Cour suprême, Donald Trump est en train de faire le tour du pays pour aider les républicains à conserver leur mince majorité au Sénat.
Promettez-moi que vous sortirez pour les élections de mi-mandat. Ne soyez pas complaisants. Vous devez aller voter.
Mais les démocrates sont déterminés à hausser le taux de participation, y compris par le prédécesseur de Trump, Barack Obama.
Ils diront « Je vais attendre l'élection présidentielle, celle-ci est en réalité plus importante. Elle est l'une des plus importantes que nous ayons connues depuis très longtemps. »
Selon l'analyste John Fortier, Trump sera la figure centrale de l'élection du mois prochain, motivant probablement les deux côtés.
Il adoube plusieurs personnes et travaille d'une manière qui étonne ceux qui ne l'en croyaient pas capable. Donc, il est totalement engagé pour le meilleur ou pour le pire. Et il est probable qu'il aide certains candidats dans des zones républicaines, mais il risque de perdre des voix dans d'autres régions.
Les démocrates ont récolté de nombreux résultats positifs lors d'élections spéciales et de primaires, signe encourageant pour novembre.
Je pense que les démocrates vont prendre la Chambre basse. Je pense même qu'ils pourraient prendre le Sénat, même si cela semble difficile. L'enthousiasme des électeurs démocrates est extrêmement élevé. Les électeurs républicains se mobilisent aussi, mais les démocrates sont vraiment décidés.
Et nous rendrons à l'Amérique sa grandeur. Merci, Virginie Occidentale.
La campagne électorale occupera Trump jusqu'au jour du scrutin. Un espoir pour lui d'atténuer la poussée démocrate qui pourrait sérieusement limiter sa présidence.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com, à tout de suite.
Salut les amis, ici Roger Moutou sur VOA Afrique. Restez branchés ce soir dans Arab Show à 20h, tout universel. Au menu, international music, la musique internationale de partout. Comédie, country music. Suivez-nous aussi en direct sur Facebook Live, VOA Afrique. Participez en appelant au 001-202-205-2633. C'est au 001-202-205-2633. Nous sommes aussi sur Twitter, Instagram et Facebook. Tapez juste hashtag RM Show. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 20h, temps universel, sur VOA Afrique. Peace Africa!
C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. À la mise en onde, Michel Joseph. À la console, Sidrak Franklin. À la présentation, Ekia Badou. Ainsi va le monde aujourd'hui. On reste connecté avec notre page Facebook, voafrique.com, pour plus d'actualités et également voir nos programmes télévisuels. Merci et bonne suite de programme en notre compagnie.